Bien, bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique numéro 41 d'aujourd'hui a pour titre générique, vous avez dit ajustement, au pluriel. Dans l'actualité économique générale et quoi? J'ai appris avant-hier que le plomb avait grimpé à 2548 dollars US par tonne sur le marché londonien, LME. Vendredi 22 octobre. Il atteint 2560 au jour le jour, 2585 à 15 mois et redescend à 2530 à 27 mois. C'est tout à fait stupéfiant quand on compare ce prix à celui d'il y a 5 ans, en 2005, de l'ordre de 60 dollars US la tonne, soit une hausse d'environ 42,5 fois ou 4250%. Soit encore 850% l'an. De tels chiffres donnent le vertige. L'alibi de la fermeture de certains sites d'extraction par la Chine la semaine dernière n'efface pas quand même 5 ans de progression plus ancienne. La surprise est d'autant plus grande que l'élément plomb numéro 82 est l'élément le plus commun qui soit sur Terre, d'autant plus commun qu'il s'en produit naturellement des quantités tous les ans, par décroissance isotopique de l'uranium naturel numéro 92. Cette décroissance fournit en sus de l'énergie, laquelle a permis de dater l'âge de la Terre aux fameux 4 milliards d'années environ, officiel seulement depuis 4 décennies, tandis qu'elle la réchauffe en plus du Soleil. Le plomb est tellement commun et si bien reconnu comme dangereux pour la santé qu'il s'en ramasse des milliers de tonnes à la pelleteuse dans les gravats des maisons anciennes et les déchetteries. Ceci d'autant plus que les batteries modernes et performantes ne sont plus au plomb et que l'emploi du plomb est de moins en moins important dans tous les domaines au profit de métaux et métalloïdes plus rares. Ma conclusion est donc que nous avons affaire à une spéculation frauduleuse comparable à celle du sucre ou du café depuis 2 ou 3 décennies. J'aurais donc tendance à vous dissuader de vous hasarder sur le marché du plomb comme acheteur à de tels niveaux de prix. Si vous en voulez, rien de plus simple. Il y en a des kilos répartis en petites billes dans les cartouches de chasse. Car même dans ce domaine, les cartouches doivent être maintenant à billes d'acier ou de tungstène, par exemple, pour chasser le gibier d'eau, santé oblige. Interdit de disséminer du plomb dans l'environnement, même pour chasser, en principe, le faisan. À ce sujet, on remarque que la nature se moque des décrets écologistes puisqu'elle en fabrique tous les jours, dans l'environnement, et sans notre consentement. L'humanité a donc bien du mal à forcer la nature à s'ajuster sur ses critères, chasser le plomb, avec jeu de mots, et il revient au galop comme le naturel. Dans l'actualité économique, financière, éco 2. Je ne sais si vous le savez, mais la vie des chèques en tant qu'instrument de règlement est comptée. Leur mort annoncée déjà depuis 30 ans est sur le point d'être déclarée officiellement. Dès 1979, un premier consentement étatique au contrôle des banques sur les émissions de chèques fut décrété par VGE, le prébarrement bancaire, matérialisé par deux petits traits en plein centre des formules, voulut visualiser la rédaction devenue obligatoire, chèque non endossable, sauf au profit d'une banque ou d'un établissement agréé. La fin de l'endo des chèques répondait à une réclamation des banques qui voulaient se dispenser de vérifier la régularité de la chaîne d'endo au verso, ceci sous le prétexte fallacieux qu'en dehors de la régularité, elles ne pouvaient pas vérifier l'identité des endossataires successifs. Le vrai motif étaient les frais. La distribution de formules de chèques prébarrés a engendré en 30 ans l'idée dans le public que ces formules étaient normales. Pourtant, le même décret n'a jamais aboli ni la possibilité de réclamer à vos banques des carnets de formules dites libres, ni la possibilité d'établir un barrement régulier dans le coin supérieur gauche qui oblige le bénéficiaire à l'encaisser sur un compte à son nom, soit dans n'importe quelle banque ou établissement assimilé, soit uniquement dans la banque dont le nom aura été apposé entre les deux traits de ce barrement par l'émetteur. C'est ce qu'on appelle un barrement spécial. La conséquence de cette distribution de formules de chèques pré-rédigées, selon une forme anciennement réservée aux mineurs ou aux majeurs sous tutelle, est que toute la population est aujourd'hui traité comme tel, mineur sous tutelle. Le carnet de chèques libre est déclaré au fisc et soumis à un timbre fiscal. Ça, c'est l'arme de dissuasion massive. Mais le chèque conserve de solides ennemis chez les banques qui savent que les formules distribuées ont un nominal illimité, au contraire des cartes bancaires de nos jours toujours limitées en retrait comme en achat à plafond mensuel. Le caractère illimité inquiète toujours les banquiers. Ces opposants au chèque se sont vus renforcés fin septembre par l'autorité de la concurrence qui vient d'infliger de lourdes amendes, 385 millions d'euros à 11 banques, dont la Banque de France, pour s'être entendue sur le versement de commissions interbancaires pour le traitement des chèques de janvier 2002 à juillet 2007, à hauteur totale de 767 millions d'euros sur les 3,1 milliards de transactions, avec une commission par chèque de 4,3 centimes, estimant que cette commission ne correspondait à aucun service rendu. La source principale de ce que je vous dis là est dans un article des Échos signé Andrif du 21 septembre 2010, mais pas seulement, voyez à la fin d'Echo 2. Les banques ont critiqué la décision de cette haute autorité en avançant l'excuse que l'accélération de l'encaissement des chèques du fait de la technologie, l'image chèque, exigeait une commission pour compenser les pertes de possibilités de placement de leurs ressources écourtées dans le temps. En fait, il ressort du lourd rapport de 148 pages que non seulement les banques dans leur ensemble n'ont pas subi de pertes, mais même qu'elles auraient gagné 91 millions d'euros en 1999. Seules certaines banques, à l'origine de cette commission, perdaient au nouveau jeu technologique et grâce à cette commission ont finalement gagné. Le CRCA, la Poste, le Crédit Mutuel et les caisses d'épargne. Le phénomène aggravant est que les banques ont répercuté ces commissions directement sur leurs clients, augmentant les frais des entreprises pour remise de chèques, lesquels ont à leur tour, chacun le sait bien, répercuté ce surcoût sur leurs clients qui se voient pénalisés à chaque règlement par chèque. Cela aurait provoqué des frais à hauteur de 946 millions d'euros sur les gens. Pire encore, les banques n'ont arrêté de pénaliser leurs clients entrepreneurs que sous la pression de l'enquête en cours de l'autorité en question, ce qui n'a rien changé encore sur la refacturation devenue systématique des entreprises aux clients particuliers. Pour récidive après le coût des crédits immobiliers en 2000, les banques, Crédit Lyonnais, Caisse d'Épargne, Crédit Mutuel, Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole ont vu leurs amendes majorées de 20%. L'autorité de la concurrence constate en outre que le dossier illustre la vision endogame du secteur bancaire qui se préoccupe plus de figer ses équilibres que de faire bénéficier ses clients finaux de ses économies de coûts. Les commissions n'ont pas bougé depuis 20 ans en dépit des gains de productivité. Il faut expertiser sérieusement les charges réellement supportées par les banques. C'est ce que dit la haute autorité en question. Cet ajustement est devenu urgent. Pour les particuliers, j'ajoute qu'ils n'en peuvent plus. Mais les banques, qui réclament depuis longtemps la suppression du chèque, qui ont favorisé la création des TIP, TUP et autres virements dans ce but, maintenant par Internet en plus, avec la bienveillance des pouvoirs publics depuis 30 ans, la décision de l'autorité est un mal pour un bien. En effet, maintenant, Christine Lagarde a le dossier sur son bureau et doit, paraît-il, se prononcer sur le remplacement de ce moyen de règlement ancien par un virement de proximité, on ne sait pas trop, préconisé par le rapport Poget Constance, qui serait bien sûr facturable aux particuliers. La disparition du chèque aura ainsi connu trois étapes. Premièrement, disparition de facto des chèques libres au profit des chèques pour enfants, limités dans leur utilisation depuis maintenant 30 ans, soit assez de temps pour imposer l'ignorance de l'emploi libre de cet ancien moyen de règlement performant pour des citoyens libres et égaux en droit, en théorie. Deuxièmement, remplacement progressif par les TIP, TUP, prélèvements et aussi virements, comme pour payer ses impôts forcés. La DGFP offre même 10 jours de délai d'encaissement gratuit pour des règlements par Internet avec carte bleue le 15 novembre prochain. Voyez le site gouvernemental et vos avertissements fiscaux. Troisièmement, suppression de la distribution par les banques de formules de chèques en carnet, même pour enfants, qui risque d'intervenir d'un jour à l'autre. Ils y auront mis le temps, mais ils pensent qu'ils sont sur le point d'y arriver. Reste à savoir maintenant par quel moyen légal ou réglementaire cette suppression va être imposée. Ensuite, si cette disparition des formules calibrées va interdire la rédaction de chèques sur papier libre, comme cela est toujours possible actuellement avec les fameuses 7 mentions obligatoires. Dans ce cas, si cette pratique se généralise, la liberté des citoyens y trouvera son compte. Mais les banques y perdront aussitôt en frais de traitement divers, redevenant alors identiques à ce qu'ils étaient encore dans les années 60. Ce sera alors un mal pour un bien, mais au bénéfice de la liberté. Dans quel sens va se faire l'ajustement? Tout est là. Tous ces ajustements en cours pourraient bien se traduire par un bras de fer entre l'association professionnelle des banques, quel que soit son nom, et une union des usagers des banques devenant plus musclée. Depuis 1985 que j'ai changé de camp pour me mettre du côté des clients à l'instar des conseillers fiscaux, je suis tout prêt à la muscler si elle le souhaite. Dans l'actualité économique, monétaire, écho 3. Une question, avec demande de réponse orale, article 115 du règlement du Parlement, vient de tomber hier, posée au Parlement européen par le député PPE Jean-Paul Gauzès à la Commission de Bruxelles, au lien que je vous indique dans la version papier. Je vous cite d'abord la question que voici. Objet, dernières évolutions concernant les taux de change internationaux. La semaine dernière, le directeur du Fonds monétaire international, DSK, a déclaré que les gouvernements risquaient de déclencher une guerre des monnaies s'ils tentaient d'utiliser les taux de change pour résoudre leurs problèmes intérieurs. Ces dernières semaines, plusieurs économies importantes ont pris des mesures pour soulager les pressions à la hausse sur leur monnaie. Le Japon est intervenu sur le marché des devises pour vendre des yens pour la première fois depuis 10 ans. Lundi dernier, le Brésil a doublé la taxe sur les achats étrangers d'obligations pour tenter de réduire les entrées de capitaux. Le président du groupe des ministres des Finances de la zone euro a déclaré récemment que la monnaie chinoise était largement sous-évaluée. Le taux de change dollar-euro est à son niveau le plus bas depuis 18 mois. La plupart des économies de l'Union européenne mettent en place d'importants programmes d'ajustement budgétaire. Les mesures relatives au taux de change prises par nos principaux concurrents sont préjudiciables à l'Union européenne, déjà fragilisée, ainsi qu'à la relance mondiale. Que compte faire la Commission? Fin de citation. Comme vous voyez, ce n'est pas DSK qui, s'il devait être le candidat du PS à la présidentielle 2012, recourrait à des ajustements monétaires souverains au nom de la France. Avec lui, la France serait encore plus soumise au mondialisme qu'avant, et c'est peu dire. On reçoit aussi les confirmations de ce que nous savions, à savoir que se poursuivent les ajustements de cours du yuan à la hausse, du yen à la baisse, comme sur le dollar US, sur les marchés monétaires et d'échange. Les pressions fiscales du Brésil anti-entrée de capitaux, dont je vous parlais il y a justement 15 jours, et résultat de tous ces ajustements par tous les moyens, nos propres ajustements à nous seraient interdits afin que nous subissions sans broncher toutes les pertes infligées par les autres. Est-ce vraiment bien raisonnable? À bientôt, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence.